nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Gilbert, vous recherchez la solitude, vous aussi? Harold lui dit. Oui, on est bien ici. J'aime bien être avec vous. Il reste un moment en silence. Puis, Harold l'entoure de son bras et le caresse en le plaquant contre lui. Il a donné un baiser sur la joue. Gilbert, d'un geste brusque, se dégage. Ça ne va pas? Harold devient tout rouge. Pardonnez-moi. Et il s'éloigne. Il se dit que c'est fini pour lui. Gilbert ne le voudra plus. Il va le rejeter. Les sept soleils vont le savoir et vont le punir. Ce voyage est une catastrophe pour lui. Échec du siècle du sixième continent. Gilbert n'a fait que des bêtises. C'est un imbécile qui aurait dû rester à sa place. Judith va l'écraser. Elle a déjà une personne pour le remplacer. Il est rejeté par tout le monde. On va se moquer de lui. Et Gilbert, il l'a perdu à jamais. Il est seul, perdu, personne pour l'aider. Il marche sur cette coursive dans la nuit froide. Huit traits noirs, le bruit de la mer, c'est dans les lugubres. Il se dit que puisque tout est fini, pourquoi ne pas en finir? Il suffit de se jeter par-dessus bord. Il irait rejoindre le sixième continent. Il se dit, ce satané sixième continent, qui n'a peut-être pas existé, ne croit plus à rien. Lui, un membre des sept soleils, c'est un comble. Il s'arrête net, au milieu de la coursive, seul. Thank you. Il va vers la rambarde, se penche et voit une mer noire en mouvement. Ça lui donne le vertige. Il se penche un peu, monte sur le rebord, s'assoit et est prêt à se jeter, plonger en avant dans cette mer noire et glacée. Les oreilles lui bourdonnent, le corps bat la chamade, un grand vide en lui. Il entend. Le déploiement d'un grand oiseau de mer ouvre la tête et l'oiseau fonce sur lui. Il est grand, grand, grand et blanc. En fonçant sur lui, il l'a fait tomber à la renverse. L'oiseau s'est envolé. Harold est tombé sur le dos, abasourdi. Il sent qu'on le relève par derrière et on le met sur pied. Il est essoufflé. Il voit que c'est un jeune marin dans les 20 ans, grand, mince, blond, visage très enfant, habillé de blanc. Harold surpris lui dit « Merci ». Le marin lui dit « La mer est froide, vous savez, et si l'oiseau n'avait pas été là, j'aurais été obligé de cette plongée pour vous récupérer. Je lui dois une fière chandelle. J'aurais peut-être attrapé une pneumonie. » Il sourit à Harold. Ça va? Harold lui dit. Oui, merci. C'est pas à moi qu'il faut lui dire merci. Il faut dire merci, mais à lui. Harold soupire et lui dit. Mais je lui dois de garder mes soucis. Le jeune homme lui dit, tu n'en as pas, moi j'ai ma mère qui est malade et mon père qui est sans travail. Harold lui dit, et vous avez votre mère? Moi, je n'ai rien. Le marin lui dit, je ne crois pas qu'une personne comme vous n'ait rien. Des tas de gens aimeraient avoir un ami comme vous. Harold demande, pourquoi je n'ai rien? Le marin lui dit, vous savez, vous êtes très bien, merci. Et le marin se penche et lui donne un baiser sur la joue. Il lui dit, je crois que nous avons besoin d'un peu d'affection. Toi et moi, venez, allons nous réconforter. Il le guide dans un coin, le fait entrer sous la bâche d'une barque de secours. Il faut de la bâche, caché sous la bâche. Le jeune marin lui procure ce dont il avait besoin. Deux heures plus tard, ils sont sortis de leur cachette, en riant comme des gosses. D'ailleurs, n'ont-ils pas joué comme des gosses? Elles se réconfortaient comme des gosses? lui demande « J'aimerais te revoir. » Le marin lui dit « Tu vois, maintenant, tu fais des projets d'avenir. » Revoyons-nous tous les soirs ici, après minuit ?» Harold lui dit. Et une fois arrivé, le marin lui dit « Je suis du Havre. » Harold lui dit « Si tu veux, tu peux venir avec moi à Paris, je te logerai. » Et que ferais-je, moi, dans une ville ? Je vais réfléchir. Il embrasse sous la joue Harold et s'éloigne. Harold se voit vivre avec ce jeune garçon, lui tranquille sans histoire. Il se dit que l'on peut vivre sans les sept soleils et le groupe, que la vie sera certainement plus belle et sans histoire horrible. Vit tranquille dans un endroit calme, un petit appartement avec son ami. Adieu tout ça. Il a des diplômes et trouvera bien du travail ailleurs. Et puis, les Américains seront peut-être heureux de l'avoir. Pas de soucis à se faire. Durant toute la traversée, il revoit le gentil marin. Personne ne le sait. Enfin, ils arrivent. Leur retour est moins prestigieux que leur arrivée, que leur départ. Mais on fait tout de même une petite fête, un des discours pour les réconforter. Et Gilbert s'engouffre et prennent une voiture pour les mener à la gare pour prendre le train pour Paris. Harold. La dernière nuit, a discuté avec le marin. Le gentil marin, Yann. Avant de le quitter, embrassé, dans la barque, il lui a demandé, que comptes-tu faire? Tu viens avec moi? Le marin lui dit, je ne sais pas, j'ai ma mère à voir. Alors lui dit, oui, mais après, tu viens me rejoindre à Paris? Je ne sais pas, peut-être que ça gâcherait tout, un marin sur la mer. C'est beau, mais en ville, ça perd sa séduction. Tu me vois dans les rues de Paris, les cafés, les restaurants, habillé en cucu. Harold lui dit, mais c'est toi que j'aime, pas tes habits. Yann lui dit, peut-être bien que tu auras assez vite de moi, d'un garçon qui ne fait rien. Non, il vaut mieux que nous quittions comme ça. Harold lui dit, tu me laisses comme ça, tout seul. Tu as tes affaires, ton monde, et puis tu emportes un bon souvenir. Harold le serre très fortement contre lui et sort de la barque. Il a le corps gros. Qu'il ramène à Paris, il ne parle pas, il est d'une tristesse terrible. Gilbert le voit. N'est-ce pas bien? Harold lui dit, on pourrait mieux aller, c'est bien d'avoir une expédition ratée, je me suis rendu ridicule, j'ai des comptes à rendre à tout le monde, je vais être mis à la porte. Gilbert lui dit, mais non, vous n'êtes pour rien. Le sixième continent a disparu. Et puis ça nous a fait une belle pub. Non, Harold lui dit. Oui, je le pense. Mais que va penser votre père? Gilbert lui dit, mon père ne dira rien. Tout va rentrer dans l'ordre. Vous resterez et vous continuerez votre travail. Ils arrivent à Paris dans la nuit. Gilbert va directement chez ses parents.
Tu vas les retrouver au salon.
Entrez.
Il entre. Bonjour mère. Bonjour père. Après les avoir embrassés, son père lui dit « Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes ?»«
Rien, père, il ne reste rien. »
Charlotte lui dit « Tant mieux. J'aurais pas aimé c'est avoir de ces vieilleries chez moi. Il paraît que lorsque l'on trouve des objets d'un naufrage, ça porte malheur. On attrape des tas de maladies. »
Maurice lui dit « Des histoires de femmes, tout ça. » Moi, je me demande qui a pu prendre le sixième continent.
Gilbert lui dit, il n'a pas pu le prendre. Il s'est évanoui, c'est tout.
Mais c'est tout de même bizarre.
Maurice lui dit,
c'est peut-être les Américains.
Charlotte leur dit, ne parlons plus de tout ça. Allons dîner. Je t'ai préparé tes plats favoris. Une potée et un beau gâteau.
Merci, mère.
Gilbert lui dit, Harold est dans un état dépressif. Il a peur que tu l'en veuilles.
Maurice lui demande, pourquoi?
Ça m'a fait une pub du tonnerre. Et gratuitement.
Parce que
ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tout ça. On continue à en parler et à parler de nous.
Et oui, on continue à en parler. Les scientifiques, journalistes, hommes politiques, religieux, tous se demandent ce qu'est devenu ce satané continent. Ils ont beau chercher, ils n'arrivent pas à comprendre. Sauf les religieux, qui pour eux, il a été repris par le Saint-Esprit, qu'il a monté au paradis, pour garder l'ADN de Dieu. Les capitaines du navire et du sous-marin sont invités à des émissions de télévision et de radio. Un scientifique dit qu'ils ont vu un trou noir sous l'eau et qu'il a peut-être été aspiré par le trou noir. On parle de refaire une expédition pour visiter ce fameux trou noir. Son arrivée, Gilbert a retrouvé son ami Julien chez lui. Une fois qu'ils se sont enfermés dans la chambre de Julien, Gilbert lui a tout raconté. Julien est déçu. Il lui dit que ça, oui, que ça. lendemain matin, Harold est retourné à son siège, du mort noir. Il a perdu son petit Yann et l'expédition n'a rien donné. Il est dans ses petits souliers. Dès qu'il rentre au siège, en passant, les gens lui disent bonjour, un bonjour qui lui semble être un peu ironique. Mademoiselle Lapin lui fait de l'œil en souriant, en haussant les épaules. Mauvais signe.
Il entre dans son bureau. Il y a dessus des tas de dossiers, chemises, de différentes couleurs, lettres, plusieurs semaines de travail en retard. Merci les copines. Vous m'avez bien remplacé. Il se met son ordinateur en marche. Regarde le courrier. De la pub achetée. Tes lettres de félicitations. Des factures de son service. Des demandes de congés. Des offres de projets. Rien d'intéressant. Vois les dossiers. C'est tout à mettre sur ordinateur. Il se dit, la secrétaire a fait exprès de ne pas le faire. Des rapports pour les chantiers, des offres de produits, des nouveaux chantiers en route, des informations sur le bilan et sur le groupe Jeune Tout Pontois. Leur bilan, leur projet. Il soupire et se dit, que de choses en chantier. Et en plus, le groupe Jeune Tout qui veut se lancer dans l'agriculture à grande échelle, dans le désert, sans planter, mais tendre, en l'air, arroser l'eau de mer sans sel, etc., etc. Le téléphone qui sonne. Il a pris l'appareil pour répondre. Allô? Oui? C'est le président qui aimerait que vous alliez le voir de suite. Bien, j'y vais, merci. Il raccroche et se dit, je vais être mis à la porte. Et sort du bureau pour aller chez celui du PDG. Prends l'ascenseur pour aller au dernier étage, mon Dieu. Dernier étage, il tombe sur l'hôtesse. Il lui dit, le PDG m'attend. Elle lui dit, oui, monsieur, monsieur. Elle le mène devant la secrétaire. Elle lui dit, le PDG attend monsieur Harold de Grimaud. Le secrétaire prend le téléphone. Monsieur de Grimaud est arrivé, monsieur. Bien, monsieur. Elle lui dit, je vais faire entrer monsieur. Il est attendu. L'hôtesse lui dit, suivez-nous. Il la suit. Elle l'amène devant le bureau. Appuie sur la sonnette. Le voyant vert apparaît. Elle ouvre la porte. Monsieur Grimaud, elle le fait entrer. Ferme la porte derrière lui. Maurice est à son bureau. Il se soulève et lui dit, venez vous asseoir, monsieur Grimaud. Harold va s'asseoir dans le fauteuil devant le bureau. Maurice lui dit, alors,
Vous avez fait bon voyage ?
Harold lui dit.
Malheureusement, très négatif.
Maurice lui dit.
Oui, je sais.
Mais dans l'ensemble, ça a été assez positif pour la société. Pour un prix, disons modique, le monde entier a parlé de nous. Même le pape et les Américains se sont déplacés avec leur armée. Une très bonne publicité. Nous sommes reconnus et traités comme un État. Le monde dit, puisque l'Amérique a eu peur d'eux, c'est qu'ils sont très puissants et que leurs produits doivent être de première qualité. Nos offres, nos commandes ont doublé. La bourse n'a cessé de grimper. Félicitations.
Merci, Monsieur le Président.
Maurice lui dit, bien sûr, je sais, l'échec de l'expédition, la disparition du continent. Mon fils m'en a parlé et m'a expliqué vos réactions et votre comportement. Harold se dit que Gilbert a dû lui dire ce qu'il lui a fait. Et qui lui a touché l'épaule et tout. C'est l'échec. Il est perdu. Gilbert doit m'en vouloir à mort. Et s'il devient président, Maurice lui dit.
Nous prenons pas trop au sérieux tout ça.
Je vous garde mon entière confiance.
Merci, Monsieur le Président.
Maurice lui dit. Je vais vous laisser à vos affaires. Ma femme fait une petite sauterie pour fêter votre retour. Vous y serez, j'espère.
Oh, oui, merci, Monsieur le Président.
Il se lève.
Au revoir, Monsieur le Président.
Au revoir.
Et il se retire.
Il se dit qu'il faut garder le père le plus longtemps possible, parce que si le fils prend sa place, ce sera sa fin. Et il retourne à son bureau. Une fois à son bureau, il commence à travailler. Il appelle sa secrétaire pour l'aider. Allô ? Dites à ma secrétaire de venir à mon bureau de toute urgence. Merci. Entre une grande blonde, très pulpeuse, un tailleur bleu, très moulant. Elle est nue dessous.
Monsieur.
Il lui dit, j'aurais pu avancer le travail. Elle lui dit,
c'est-à-dire qu'on ne savait pas si monsieur allait revenir ou non.
Comment ça?
Oui, avec toutes ces choses radioactives, ces monstres marins.
On s'est dit que dans ce siège, que vous n'alliez pas revenir. D'ailleurs, Mademoiselle Lapin avait déjà commencé une collecte pour une couronne.
Harold Furieux lui dit,
elle n'est pas à la retraite, celle-là.
La secrétaire lui dit,
elle a des difficultés à se retirer.
Alors,
et on a embauché un jeune cadre très bien. Et l'on pensait que peut-être,
Harold lui dit, assez, je suis là, travaillons.
Et il travaille durant toute la journée. part, en sortant, elle rencontre Mademoiselle Lapin. Elle lui dit « J'ai passé une journée terrible. Il a un caractère de chien. On l'a fait travailler comme une folle. » Mademoiselle Lapin lui dit « Ça ne m'étonne pas. » Le secrétaire lui dit « Il m'a dit des choses horribles sur moi. » Mademoiselle Lapin lui dit « Ça ne m'étonne pas. Je suis une femme sérieuse, moi. » Comment ça? Eh bien, un jour que j'étais dans l'ascenseur, seul, avec lui, j'ai vu ses yeux qui se posaient sur moi. Je les regardais de haut et haussais les épaules. Depuis, il m'en veut. Je suis son échec pour lui. Il ne m'a pas eu. Je sens qu'il me hait. Comme je me refuse, il me hait, il me désire. Jusqu'au jour, je me donnerai à lui. Tout est fait. Mademoiselle Lapin dit, ne craignez rien. Je suis une vraie jeune fille, moi. Mais vous, faites attention à vous. D'accord. Vous êtes moins bien que moi, mais tout de même. Le secrétaire lui fait, ne vous en faites pas. Je sais me défendre, moi. Il ne m'aura pas. Et le lendemain, elle se met des jupes encore plus courtes. Lendemain, Gilbert retrouve Nathalie. Il est allé la chercher à la sortie de ses cours comme d'habitude. Il s'embrasse et lui demande « Tu es heureux de me revoir ?» Elle lui répond « Très. » Et ils vont au café. Il lui raconte son voyage. Elle lui dit « Que ça ?» Il lui dit « Oui. » Le soupir, il lui dit « Je suis déçu. Je croyais qu'il allait raconter des monstres. Rencontrer, je sais pas moi. » Il lui dit « À part les Américains, c'est tout. Et toi ?» Elle lui dit « Merde. Se rétablit, elle va sûrement revenir, rentrer bientôt. Elle est toujours la même. Pour le moment, c'est les vacances pour elle. Elle a fini son traitement. » Gilbert lui dit, je suis heureux pour elle, et toi? Elle lui dit, eh bien moi, toujours la même vie. Il lui demande, il n'a pas cherché à travailler? Non. Et puis Julien était là. Il est bien, Julien. Si tu me laisses tomber, je le prendrai bien avec moi. Père furieux lui dit, sûrement pas. Et puis Julien ne fera sûrement pas ça. Elle lui dit, ne te mets pas en colère, c'est juste pour rire. Elle l'embrasse sur la joue. la vie reprend comme avant. Harold a retrouvé son appartement au bar Haussmann, mais il s'y ennuie. Il pense constamment à Yann, surtout la nuit. Il écrit une lettre à la compagnie maritime où il est embauché, parce qu'il ne connaît pas son adresse. Il lui dit qu'il veut absolument le revoir, qu'il est le trésor le plus beau, le plus précieux qu'il ait découvert durant son expédition. Qu'il veut absolument le revoir. Oui, absolument. Il a attendu. Puis la lettre a été renvoyée avec sur l'enveloppe. Personne n'est plus à cette adresse. Ne cherchez sur l'ordinateur, mais rien. Rien trouvé. Il se dit que bien sûr, une personne qui n'a pas d'ordinateur disparaît, lui aussi. À moins qu'il ne lui ait pas dit son vrai nom. Les jours passent. Carole est dans son bureau, le téléphone sonne. Elle décroche.
Oui, j'écoute.
C'est moi, Monsieur Grimaud. Judith, vous allez bien? Harold a chaud et se dit que sa dernière heure arrive.
Il lui dit, oui, merci.
Elle lui dit, pouvez passer à mon bureau, s'il vous plaît?
Il lui répond,
oui, bien sûr, madame, j'y vais de suite. Elle lui dit, bon, je vous attends. Et il sort de son bureau tremblant. À l'étage de Judith. Arrivé à l'étage de Judith, une hôtesse le conduit au bureau. Elle appuie sur un bouton. Le bouton vert s'allume et le fait rentrer. Elle entre. Il entre et ferme la porte. Judith lui dit, venez vous asseoir. Il va s'asseoir.
Une fois assis, elle lui dit,
alors ce voyage?
Il lui dit, raté. Elle lui dit,
c'est normal. On ne doit pas faire des recherches sur des choses qui nous regardent.
C'est bien fait pour vous. Vous n'avez rien trouvé, j'espère.
Il lui dit,
non, rien. Mais je ne comprends pas.
Elle lui dit, il fallait bien que l'on fasse disparaître certaines preuves, certaines vérités qui ont été dangereuses à dire.
Il lui dit, parce que c'est vous, Elle lui dit, c'est nous. Parce que vous en êtes, non?
Oui, bien sûr. Mais comment? Il ne reste rien. Absolument rien.
Nous sommes très forts pour faire disparaître les preuves. Il lui dit, de grosses preuves de la taille d'un continent?
C'est un peu gros.
Elle lui dit, oui, peut-être. Mais qui vous dit qu'elles ont disparu? Vous ne les avez pas vues? Mais peut-être qu'elles y sont.
Comment?
Disons, par un jeu d'essence. Imaginez un produit, un appareil qui trouble et connecte les sens pour leur faire voir, entendre, toucher ce qu'ils veulent ou faire croire à des choses pour cacher, faire croire que ce qu'il y a n'existe pas.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.